10h40, ben pile, dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Et j'ai du renfort en studio après une trentaine de minutes à passer seul parce que Kat Bachan n'était pas disponible ce matin. Il est venu prêter main forte, Nathan Meilleur. Salut!
Hello!
Un gros merci de venir me porter compagnie.
Écoute, ça fait plaisir. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme
et
on dit. Hein?
Et j'ai même deux personnes pour me tenir compagnie parce qu'il est au bout du fil. On aime bien ça lui parler à l'occasion. Frédéric Boisvert, qui est PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Salut Frédéric.
Bonjour Max, ça va bien?
Yes, ça va très bien. Pour toi, j'imagine que c'est des grosses journées, hein, un gros début de semaine avec tout ce qui se passe dans l'actualité?
Ouais, effectivement, je peux pas te cacher que la charge, elle est significative, voilà.
Évidemment, on va se parler dans les prochaines minutes de tout ce qui est financement du fédéral pour le projet de tramway de Québec avec l'entente qui s'en vient. Il y a eu l'annonce hier également par rapport à ce qui s'en vient dans Saint-Roch avec l'Université du Québec, mais je voulais commencer avec ça parce que tu signes ce matin un texte d'opinion dans le Journal de Québec titré « Devenir le pôle logistique par excellence dans l'Est du Canada ». Grossièrement, c'est quoi cette idée-là et pourquoi ce serait gros pour la région?
Ben en fait, c'est qu'on a tous les éléments actuellement d'un véritable pôle logistique là, à Québec. Là. On parle notamment du ferroviaire avec la voie ferrée, le portuaire avec le port de Québec, l'aéroportuaire avec l'aéroport international Jean Lesage. Puis là, ce qu'on découvre, c'est que tout ça, ma chronique découle finalement d'un rapport qui a été émis par la communauté urbaine de Québec, métropolitaine de Québec, désolé, sur la question de la logistique à Québec. Puis c'est quoi le constat qu'on en retire, là, juste si on met ça très, très simple. C'est 90% de la marchandise qui rentre dans la capitale nationale, c'est fait par camion. Or, ce qu'on se rend compte, évidemment, c'est qu'on ne se cachera pas qu'avec ce qui se passe en termes de travaux d'infrastructure à Québec, c'est déjà difficile, il y a déjà de la congestion. Imaginez-vous une seconde ce qui va se passer avec le tramway qui a déjà commencé à éventrer le boulevard Laurier, les principales artères, le tunnel. Fait que finalement, tout ça va devenir, déjà que c'est complexe, là, déjà que la question de la logistique par camion crée quand même du trafic à Québec. Qu'est-ce que ça va être les prochaines années dans un contexte démographique où on va atteindre le million pour la région métropolitaine, le million d'habitants là, avec Lévis-Québec? Ça va être quand même quelque chose. Fait que l'idée, c'est qu'il y a des villes dans le monde qui ont remporté ce défi-là de manière efficace pour développer un pôle logistique qui était optimal. À Québec, évidemment, on part d'une situation où on a 90% du stock qui rentre, ça rentre par camion. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut mieux exploiter le port de Québec? Est-ce qu'on peut mieux exploiter via le fret avec l'aéroport international Jean Lesage? Le ferroviaire également, là on peut le voir via le projet QSL. C'est vraiment une matrice de logistique de biens qui est plus complexe qu'on peut y penser, qui demande beaucoup d'attention.
Puis qu'est-ce qui explique qu'on n'en soit pas là présentement ou qu'on soit aussi reculé? T'sais, on a-tu manqué de vision pour que quasiment tout passe par le camion, alors que tu l'as dit, Frédéric, d'entrée de jeu, on a tout à Québec pour faire les choses autrement? Et pourtant, on le fait pas, puis ça sera pas à court terme.
Ben moi, je pense, Max, qu'il y a un élément de contrainte. C'est-à-dire que, tu sais, jusqu'à tout récemment, à Québec, ça c'était encore vivable, là. C'était encore gérable. Mais là, on comprend qu'avec la croissance de la ville, puis la ville, on se le cachera pas, je viens de te le dire, là, au niveau démographique, là, ça va continuer, là. Fait que on va avoir tout un défi là pour les prochaines années. Puis je pense qu'il faut refaire, puis il faut repenser cette logistique-là de l'acheminement des marchandises à Québec. Il faut vraiment penser ça, puis il faut reposer ça sur nos piliers. Là. Par exemple, je sais que du côté de l'aéroport, ils ont reçu du financement pour du fret de cargaison de marchandises. Ben, c'est pas n'importe quelle marchandise qui peut passer via les avions qui sont à l'aéroport de Québec. Là. On parle des fois de pièces. Ça pourrait être même du biopharmaceutique, évidemment, s'il y avait la certification. Il y a plein d'éléments. Ça. Il y a également à côté de l'aéroport un parc industriel qui va se greffer là, qui a été annoncé récemment. Ben, peut-être que là, il y a une opportunité d'optimisation de notre chaîne logistique en lien avec l'aéroport et les futurs approvisionnements de marchandises dans la ville de Québec. Ça, c'est d'une complexité quand même assez importante, mais il reste que je vais te donner des exemples, moi, là, Max, pour que les gens comprennent. Comment ça se passe de par le monde, la logistique en termes de marchandises, puis comment c'est géré? Grosso modo, je te donne l'exemple, par exemple, de Londres, où c'est vraiment une ville, on va se le dire, là, c'est une mégapole, là, c'est une ville qui est énorme. Ben, ils ont tout repensé leur système d'acheminement de logistique où toutes les livraisons, par exemple, qui se font par camion dans la ville de Londres, sont faites la nuit. Sont destinés dans des entrepôts, je te dirais, qui sont des méga-entrepôts. Puis durant la journée, c'est des petits camions électriques qui dispatchent la marchandise à gauche et à droite, dépendamment de la grosseur et du stock qui doit être livré. Mais tu comprends, l'idée, c'est d'épargner le trafic de jour pour s'assurer que on ait quand même une optimisation de la circulation au niveau de Londres. À Paris, ils ont fait un système logistique souterrain. À Singapour, ils sont rendus avec des multi-étages, des entrepôts qui, contrairement à nous, dans les parcs industriels, on dépasse pas vraiment 3-4 étages. Les autres sont rendus dans du 8 puis du 10 étages et plus. Tu sais, il faut repenser en fonction des contraintes qui vont émerger dans notre territoire. Il faut vraiment faire une matrice de ça. Puis ça, ce que ça demande, Max, c'est quand même une extrême coordination là, envers des pôles logistiques. Là. Le ferroviaire, comme je t'ai dit, le portuaire, l'aéroportuaire, le transport routier. C'est vraiment beaucoup de concertation. Puis le rapport de la communauté métropolitaine de Québec, ben, ajoute les fondements de ça. Puis ça, je salue quand même l'étude. Là. Ça résulte d'un sondage dans lequel on a participé, qu'on a été membre également, qu'on a sondé nos membres. Fait que je suis quand même fier qu'on ait quand même pu mettre une lumière là-dessus. Là.
Il y a beaucoup de choses, Frédéric. Ça m'amène beaucoup de questions, en fait, là, ce que tu mentionnes dans les dernières minutes. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Okay? Première question, vas-y. Parce que tu as parlé de faire et de refaire, de repenser le plan. Je trouve qu'à Québec, des fois, on est bon là-dedans. Faire et refaire. Puis je pense, entre autres, pour avoir vécu moi-même ce bordel-là pendant des années parce que je devais passer sur Champlain pour aller reconduire mes gars à la garderie quand j'étais jeune. Ce chantier-là qui, bon, nous a donné maintenant un espace exceptionnel qu'on tarde à allonger. Ouais. Avec l'accès ferroviaire, est-ce qu'on a déjà ce qu'il faut en ce moment? Est-ce que c'est mal optimisé ou est-ce qu'il faudrait refaire encore puis repenser toute la promenade qui a déjà été refaite dans les dernières années?
Non, je pense pas qu'on va toucher la promenade d'aucune façon. D'ailleurs, il y a la phase 4 qui va être annoncée éventuellement. Là. Il y a la phase 4 qui va nous mener à Beauport. Non, je pense que le ferroviaire, tu sais, il est là puis tu ne peux pas déplacer le ferroviaire comme tu peux. Je pense que le ferroviaire dessert bien la région de Québec, a un accès direct au port de Québec. D'ailleurs, le projet QSL, c'est ça également, là, c'est qu'on transforme, tu sais, parce que je veux répondre à ta question, mais je veux quand même te donner des ancrages, des poignées par lesquelles on va parler d'une réalité qui est propre à Québec. Comme par exemple, en ce moment, au port de Québec, là, c'est beaucoup de vrac. Mm-hmm. Ben, pour moi, là, le port doit aller ailleurs, là, clairement que le vrac. Là. Le vrac d'autres ports au Québec pourraient s'en occuper éventuellement. Là. C'est pas un signe de modernité, là, gérer du vrac dans une ville comme Québec. Gérer du stock et de la marchandise à Québec dans une optique de consolidation du pôle logistique, c'est d'avoir des containers qui produisent beaucoup, beaucoup de spin-off autour de ça, qui permettent à des entreprises de se greffer à ça. Il y a toute une logistique de marchandises qui va s'imbriquer dans le contexte du port de Québec, dans cette mutation-là qui va se passer avec QSL, mais il va en avoir d'autres projets. C'est un peu toute la modernisation du port de Québec. Ça, c'est une partie fondamentale. Fait que moi, je pense pas d'aucune façon là, les promenades de Champlain vont être touchées. D'ailleurs, c'est un œuvre qu'on devrait pas toucher du tout. Il y a du camion qui passe par là, mais en quantité correcte, c'est gérable. Mais tu sais, il y a d'autres affaires qu'on n'utilise pas bien, je te dirais, Max. Pas bien, mais pas suffisamment. Il y a eu des projets d'approuver puis de financer pour le fret de cargaison de marchandises à l'aéroport de Québec, mais on pourrait aller plus loin, puis on devrait aller plus loin dans le contexte du parc industriel qui va se greffer juste à côté de l'aéroport. Il y a là des opportunités. Tu sais, je comprends que ça peut devenir gossant à la fin, entre toi et moi, de se dire, c'est pas de repenser, je te dirais, le système, c'est de l'optimiser. C'est d'aller plus loin, c'est de penser, okay, c'est quoi les investissements que ça nous prend là pour avoir une logistique des marchandises dans le sens du monde, un pôle logistique dans le sens du monde à Québec. Là, on le sait, là, le constat, c'est qu'on doit l'optimiser. Mais comment? C'est pas une question de réinventer la roue, c'est de faire des investissements stratégiques qui vont nous aider de passer à une étape supplémentaire. Puis on réglera pas tout dans une journée. Là. C'est un plan de match-là qu'on voit dans le rapport. Là, c'est pas un plan de match, mais c'est un constat, mais ça nous donne quand même une voie vers un plan de match. Ça va être sur plusieurs années. Là. Ça se réglera pas en 5 ans, cette affaire-là. Là.
Parce que moi, je trouve ça intéressant quand même, l'aspect que tu as amené, l'exemple de Londres aussi, entre autres, avec les livraisons de nuit par camion. Mais c'est sûr que, tu sais, d'un point de vue logistique, justement, de trouver la main-d'œuvre qui va accepter, parce que c'est bien beau d'avoir, bon, les hommes, les femmes derrière le volant pour conduire les camions, mais automatiquement, ça prend du personnel dans les entrepôts pour accueillir ces livraisons-là. Mais ça, c'est sûr que ça aiderait énormément, ça amoindrirait énormément ce qui se passe sur le réseau routier en plein jour. Là.
Laisse-moi réagir là-dessus. Là. Tu sais, je veux dire, écoute, on n'est pas désincarné de ce qui se passe dans le monde, Max. Va voir ailleurs, là. Il y a des espaces de logistique où il n'y a plus de personne là-dedans. Il n'y a plus personne. C'est tout automatisé. Fait que, je veux dire, aussi bête que ça, il y en a un que j'ai rencontré à Varennes, que j'ai vu à Varennes. Là, c'est le groupe, je vais le taire le nom parce que je ne me rappelle pas exactement de la compagnie, mais c'est carrément une compagnie où les trucks débarquent. C'est les machines où il n'y a même plus d'air dans l'espace d'entreposage. Okay. C'est souvent en lien avec des espaces, avec des denrées périmables, là, de la bouffe et autres. Et il n'y a pas grand... Tu sais, pour un édifice de milliers de centaines de pieds carrés, là, il y a à peu près un ou à deux employés. Là. Je veux dire, l'automatisation actuellement fait en sorte que tu n'as pas autant besoin de main-d'œuvre qu'avant. On peut faire beaucoup plus, beaucoup plus rapide avec beaucoup moins de personnes. Fait que, puis on se le dit, là, c'est vrai que la main-d'œuvre va être un enjeu pour les prochaines années. Ça, t'as tout à fait raison.
On a des belles entreprises en technologie puis en robotique ici à Québec qui pourraient peut-être aider justement.
Ben, voyons,
ça générerait de l'emploi, ça aussi.
Ben oui, écoute, moi je connais une compagnie comme Frontleap avec David Dupont. Hey, Frontleap, je m'excuse, là, c'est une compagnie en pleine émergence. Ils ont pogné le contrat avec Canac pour tout iatiser l'expérience client dans toutes les succursales Canac partout au Québec. Puis je vais te le dire, je l'ai vu le projet, là, on l'a présenté à la Chambre dans le cadre d'un événement avec le VP qui était là, technologie, là, c'est renversant. Là. Vous allez avoir une expérience que même Home Depot vous fournira pas. Puis ça, Canac, là, c'est une compagnie de Québec à Québec. Perce à Montréal. Fait que tu sais, il y en a là, du beau. Il y en a du beau qui se passe en ce moment. Il y a vraiment des belles affaires qui se passent. Mais on est en pleine mutation. Puis tu sais, le temps puis l'espace, on dirait, se contracte puis s'accélère. Il y a plusieurs changements qu'on ne voit pas. Mais ce que j'aime dans ces rapports-là, Maxime, c'est pas de refaire le monde, mais c'est de se dire, OK, où est-ce qu'on est rendu? Puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là, comme prochaine étape pour s'assurer qu'on ait une expérience à Québec qui soit quand même correcte? Puis là, ben, je veux juste te dire une chose. Le projet du tramway, là, il va en faire sacrer plus d'un. Les automobilistes, les conducteurs de camions qui vont avoir les marchandises. Mais ça, là, de cette contrainte-là, moi, j'ai l'impression que ça va forcer une amélioration puis une sophistication de l'approche de la logistique à Québec. Puis ça, je pense qu'on va devenir meilleur, mais par la force des choses, on n'aura pas le choix.
Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Tu viens de nommer le projet de tramway, le financement fédéral pour le projet qui va passer officiellement là, à 2,75 milliards. Je veux t'entendre sur le fait que cette annonce-là va se faire du côté de Longueuil. Puis bon, je comprends, puis je vais l'expliquer aux auditeurs rapidement. Là. C'est pas une annonce spécifique sur le tramway de Québec, mais quand même, les grandes annonces, pas supposées se faire à Québec, ça, selon la loi sur la capitale nationale?
Non, en fait, c'est ce que la loi touche, c'est sur la question des visites diplomatiques, des visites des chefs d'État étrangers. Lorsqu'on parle d'annonce, là, on appelle ça du domestique, là, du in-house, qui fasse l'annonce, écoute, à Longueuil, à Montréal. Moi, je me battrais moins là-dessus. Il y a un élément de symbole, au final, la capitale, mais il faut savoir choisir ses combats. Mmh. C'est certain que si, par exemple, le projet... 90% des sommes étaient destinées à Québec, puis qu'on annonçait à Montréal, là, je dirais, écoute, il y a carrément là un problème. Là. Ça me semble être un peu incongru. Mais même le maire de Québec, aux dernières nouvelles, semble se joindre à l'annonce. Là. Je l'ai moins suivi ce bout-là. Là.
Ouais.
Mais si c'était le cas, ça donne quand même une réponse sur comment ça réagit à Québec côté partie prenante.
Puis pour ce qui est de l'annonce en tant que telle, là, du 2,75 milliards, puis en général là, de l'entente Québec-Ottawa sur le financement du transport avec le nouveau programme, j'imagine que c'est une bonne nouvelle à tes yeux?
Ben, écoute, d'un point de vue finance du gouvernement du Québec, ça en est une, parce que là, ça vient de réduire d'autant la contribution du gouvernement du Québec, parce qu'on se rappellera que l'entente signée entre la Ville et le gouvernement du Québec, CDPQ Infra, ben, c'était qu'au départ, même le financement fédéral, il n'était même pas il était même pas mentionné là-dedans. Là. C'était vraiment, c'est sûr que le gouvernement du Québec casquait tout jusqu'à ce qu'il cherchait des subventions. Or, l'annonce d'hier, ça vient apporter la contribution du fédéral à près de 40%. Ça fait que ça, c'est d'autant que le provincial n'aura pas à payer. Au final, le citoyen qui paye ses taxes, là, tout le monde finit par payer pour ça. Là. Mais chose certaine, au moins, c'est que ça vient comme un peu plus équilibrer les finances du gouvernement du Québec là, à court, moyen puis long terme, parce que on s'entend qu'à Québec, lorsqu'on finance des projets d'infrastructure actuellement, là, c'est sur la base d'emprunt. Là. Fait que tout coûte plus cher que le montant de base qu'on dit, parce que là, ce qu'on fait effactoriser le coût d'emprunt dans les projets généralement, là, mais c'est quand même pas une partie insignifiante, le coût d'emprunt. Là.
Un dernier sujet, Frédéric Boisvert, que je voulais aborder avec toi, l'annonce concernant les investissements à venir de l'Université du Québec dans Saint-Roch. Bon, encore là, c'est une bonne nouvelle, mais on est au stade très, très, très embryonnaire. Ouais. C'est un peu comme ça que tu le vois?
Ben écoute, je rencontrais justement hier le président de l'Université du Québec, là, Alexandre Cloutier. On était ensemble lors d'un repas avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada, là, qui est venu nous visiter à Québec hier. Puis je lui disais encore récemment que ce projet-là, c'est très, très important pour la suite. C'est comme ça qu'on va bâtir Saint-Roch. C'est parce qu'au départ, tu sais, quand le maire Lallier avait pimpé Saint-Roch, comme on peut dire, là, enlevé l'espèce de couloir centre commercial, renippé la rue, ben il y avait quand même eu à l'époque, tu sais, à cause des incessants financiers, beaucoup de commerces qui s'étaient venus se greffer pour bénéficier des montants, mais c'est pas une façon non plus d'assurer la pérennité de ça. Tu sais, un quartier comme ça, là, ça a besoin de soins, ça a besoin de réflexion. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on voit des choses organiques comme ça, c'est-à-dire de greffer des milieux de vie supplémentaires dans le quartier, moi, je ne peux que voir ça du bon oeil, parce qu'après ça, les étudiants vont à l'ENAP à côté, vont à l'INRS à côté. Ça crée des milieux de vie où ça vient comme introduire une mixité qu'on a perdu à Saint-Roch. On va se le dire, là, à Saint-Roch, on a perdu beaucoup de mixité, fait qu'il y a beaucoup d'itinérance, pardon, beaucoup moins de commercial, fait que c'est important, ça, là, puis ça va aider pour le commerce, ça va aider pour les restaurants, ça va aider pour toute la suite de créer ce milieu de vie-là supplémentaire étudiant.
Une petite dernière pour toi, Frédéric Boisvert, une petite balle courbe. Est-ce qu'on pourrait te voir te présenter aux prochaines élections provinciales?
Ah, s'il vous plaît. Ah non, écoute, ça va être beau. Non, on laisse ça aux autres. Non, moi, j'ai fait 10 ans en politique. Les gens ne savent peut-être pas, là, mais moi, j'ai été staffer 10 ans au fédéral, de 2000, à peu près 2006 à 2015, OK? J'ai occupé toutes sortes de fonctions, moi, au fédéral, comme conseiller du premier ministre. J'ai géré sa période des questions avec le directeur des enjeux. J'ai été chef de cabinet pour plusieurs ministres. J'ai géré des dossiers transport, infrastructure, sécurité publique. J'en ai fait bien en masse au fédéral. Puis j'ai eu la chance de connaître la machine, moi, de l'intérieur. Puis j'ai énormément de respect pour ceux qui se présentent, parce que ça prend beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Moi, regarde, j'ai 51 ans. Dans mon plan de carrière, là, je me vois pas retourner en politique. J'aime ce que je fais. J'aime travailler avec les entrepreneurs. J'ai été en développement économique avant, dans une région du Québec que j'ai adorée. J'ai été vice-président du chantier d'Evi Canada, où on a opéré un carrément de renaissance, un miracle avec la Devi. Quand moi j'ai quitté, on avait pour 8,5 milliards de contrats. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime. Là. C'est vraiment être au cœur de l'économie, des entreprises, à la chambre avec mes membres. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais en politique, là, non. Moi, je vois pas ça dans ma carrière pour la suite. Là.
Ben, tant mieux, on va continuer de se parler comme PDG de la Chambre de
commerce. J'espère que j'ai été clair. Hein? Je pense que c'est sans équivoque.
Je pense que oui. Je pense que si on voulait faire un gros titre, là, on écrirait Frédéric Boisvert ferme vivement la porte à un retour en politique.
Je m'en vais pas là. OK, merci beaucoup.
Hey, salut, toujours le fun. Bye-bye. Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui assez visiblement ne veut rien savoir de retourner en politique active. Puis tant mieux, puisqu'on adore ça, lui parler comme PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Un gars qui a des idées, un gars qui a une vision, puis qui a pas peur aussi de dire les choses comme elles sont.
C'est plus facile de faire bouger les choses plus rapidement, sans être quelqu'un qui aime le cause à effet. Là. Tu sais, quand ça se passe plus vite un peu, des fois en politique, c'est
machine.
Plus long. C'est ça. En plein ça, tandis que là, brasser des affaires, brasser de la business comme ça, peut être là en soutien pour les entrepreneurs de Québec, clairement, ça semble... Le passionné, pas rien qu'à peu près.
Ah oui, c'est un vrai passionné. C'est un de mes intervenants préférés de la région de Québec avec qui jaser, parce que quand Frédéric Boisvert s'en va quelque part, il s'en va quelque part.
Ben, puis lui aussi semble t'aimer beaucoup, Max, parce que même quand moi, je posais des questions, il disait Max pareil.
Peut-être que nos voix se ressemblent un peu au téléphone.
Eh oui. Non, je la gâche, pense que oui. Puis je venais d'arriver en plus.
Non,
en
c'est ça. Aussi.
Mais super intéressant de voir que ce monsieur-là a le titre, le poste de PDG actuellement de la Chambre. Je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Clairement, c'est un monsieur qui veut brasser la soupe et qui veut s'assurer que ça continue à avancer. Puis l'idée d'optimiser avec des infrastructures qu'on a déjà en place, si je ramène un peu au début de l'entretien, là, autant avec le port de Québec qu'avec l'aéroport en ce moment, ça prend des gens comme ça dans la ville de Québec pour se rendre compte, hey, on a déjà ça en place, mais on ne l'utilise pas comme il faut. Comment on fait pour stepper up la game, comme on dit en bon français.
Nathan Meilleur dans le show aujourd'hui pour m'accompagner dans le Point de Max. On est ensemble jusqu'à midi. Il est 11h au retour de la pause. On jase d'un joueur de deck hockey qui avait attaqué un arbitre. Ben, il va passer 12 mois en dedans. Décision qui a été rendue dans les dernières minutes.